Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La menace djihadiste continue d'affecter les civils. Plusieurs dizaines de civils ont été tués ces dernières semaines à Meneka et à Bankas. Malgré la montée en puissance des femmes annoncées par les autorités, certaines localités sont toujours sous la menace des groupes armés. Quelle solution ? Studio Tamani pose le débat. Nos invités, Mohamed Oumar Dambélé, membre de la cellule de communication du collectif pour la défense des militaires, CDM, Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société, et Paul Oula, analyste sécuritaire au téléphone. Je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Les menaces djihadistes continuent de planer sur certaines localités du centre et du nord du pays. Des villages se vident de leurs habitants, de délais accordés aux populations de libérer les zones, suivant le résumé de la situation sécuritaire avec Idrissa Sako.
9 civils ont été tués le 26 février dernier à Intiklaten, dans le cercle d'Inekar et région de Menaka, a rapporté la communauté Idaksahak dans un communiqué. La même source explique que des terroristes affiliés à l'État islamique ont fait irruption dans la localité et procédé à l'exécution de ces civils. Par ailleurs, des habitants de Singidara, dans le cercle de Nyono, joints depuis leur lieu de refuge, affirment que le village est aujourd'hui presque désert. Tout est calme. Dimanche dernier, les gens vaquaient à leurs occupations quand des hommes en armes, à moto, ont fait irruption dans le village, explique-t-il. Après avoir convié les villageois sur la place publique, ils ont sommé tout le monde de quitter le village pour suivre ces mêmes sources. Cet ultimatum a provoqué une débandade dans le village. Certaines sources rapportent que beaucoup d'habitants sont partis sans destination fixe. Le village de Famabougou, situé à quelques encablures de Singidara, a aussi reçu la visite des terroristes. Sommés de quitter leur localité le même jour, les habitants n'ont eu d'autre choix que de se réfugier dans les villages voisins. Les assaillants, avant de se retirer, ont emporté un grand nombre de bétail et plusieurs tonnes de céréales selon des sources locales. Jeudi dernier, le village de Kanibonzon dans la région de Banyangra a été la cible d'une attaque terroriste. Cette attaque a fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants.
Mohamed Oumar Dambélé, vous êtes de la cellule de communication du collectif pour la défense des militaires. Vous venez d'écouter le résumé de la situation sécuritaire. Quelle lecture faites-vous de cela?
D'accord. Encore une fois, merci pour le studio Tamani. Bonsoir également aux co-débatteurs. Et encore une fois, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, il faut le dire toujours. Et sous les balles du terrorisme sponsorisé encore une fois par la communauté internationale. C'est vrai, je viens d'entendre quand même ce reportage, c'est vraiment déplorable. Mais sauf qu'il faut juste rassurer la population du nord au sud que l'insécurité zoro n'existe nulle part au monde. Ça, c'est très important. Donc, c'est vrai, il y a ces attaques, il y a ces banditismes, il y a ces narcotrafics, mais la situation reste encore sous contrôle, comme nous l'avons dit, et dans notre jargon militaire, elle est sous contrôle. Ça, on ne peut pas nier cela. Maintenant, tout ce que nous demandons, c'est la collaboration, la franche collaboration de la population avec les forces de sécurité, les FAMA qui sont sur le terrain. Et on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout connaître, parce que souvent, il ne faut également pas avoir peur de le dire. Nous avons également des touristes locaux, des individus qui ont été recrutés par-ci, par-là, qui malheureusement aujourd'hui se retrouvent dans un chômage technique qui ne dit pas son nom. Donc il va de soi qu'il y ait de ces attaques-là. Et vous voyez, vous avez même entendu dans les reportages qu'ils ont emporté des bétails, des céréales. Ce n'est pas du tourisme ordinaire. Généralement, c'est juste du banditisme. Il faut l'appeler ainsi. Pour le moment, le tableau quand même, il est un peu sombre à ce niveau-là, en termes de collaboration civilo-militaire jusqu'à ce niveau.
Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, ce qui explique cela, comme je le dis, il y a toujours des recruteurs locaux, il y a toujours des éléments qui sont toujours nostalgiques des événements de 2012, et qui s'attachent toujours à ce qu'on appelle ces soi-disant djihadisme ou terrorisme-là, pour chercher un emploi sûr. Donc maintenant qu'ils sont pratiquement décapités, donc chacun se bat de son côté. Donc, c'est ce qui nous justifie tout cela aujourd'hui sur le terrain.
Ces zones que vous qualifiez de sombres, est-ce que c'est des zones qui sont aussi à la connaissance de l'armée?
C'est ce que je disais tout de suite. L'armée est aujourd'hui La montée en puissance de l'armée malienne n'est pas à négliger, elle n'est pas à nier, on ne peut pas nier cela. Mais sauf que, comme je le dis, on ne peut pas voir tout, on ne peut pas connaître les mouvements des uns et des autres à tout moment. Surtout que parmi eux, comme je le dis, c'est des gens qui sont du village, peut-être ils sont même du village d'origine, qu'ils attaquent d'ailleurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait une certaine collaboration de la population pour démasquer tout ceci. Sinon, ce ne sont pas des touristes au vrai sens du terme, ce ne sont pas des djihadistes également au vrai sens du terme, c'est des locaux, c'est des fils du tiroir. Donc il faut juste dénoncer ces personnes-là et puis les mettre à la disposition de la justice, c'est tout.
Dans votre introduction, vous avez dit qu'il y a des terroristes qui sont financés par la communauté internationale. Quelles preuves avez-vous par rapport à cela?
Bon, mais non, on n'a même pas besoin d'avoir des preuves par rapport à cela. Tout le monde sait quand même que les attaques d'avant le départ de Barkhane et aujourd'hui ne sont pas les mêmes, ce n'est pas de la même nature. Donc il va de soi que c'est pourquoi dans tous nos communiqués, nous on parle du tourisme international sponsorisé par la communauté internationale, parce que même quand vous prenez la présence de l'AMINUSMA aujourd'hui au Mali, c'est pratiquement la même chose, c'est toujours dans la même mouvance, c'est toujours dans la même danse. Donc nous pensons que jusqu'à preuve le contraire, il faudrait que la population collabore, ça c'est le plus important. Même s'ils sont sponsorisés par la communauté internationale, si la population joue sa partition, les conséquences seront minimes.
Bakabini Keïta, montée en puissance des forces armées maliennes. Malgré cela, des populations continuent à sous la menace. Il y a la menace qui continue à avoir la menace des terroristes qui leur demandent de quitter leurs lieux d'habitation. Quelle lecture faites-vous de ce résumé de la situation sécuritaire que vous venez d'écouter?
Bon, d'abord je vous salue et puis l'ensemble de vos collaborateurs qui travaille avec vous. Je salue aussi les co-débatteurs, M. Dembélé et puis celui qui est au téléphone.
Paul Oula.
Paul Oula. Je salue tous les auditeurs de Studio Tamani. Franchement, Studio Tamani fait un travail magnifique qui est à saluer parce que ça permet quand même de véhiculer les informations, de sensibiliser, de former. Donc, c'est un travail à saluer. Maintenant, la question que vous me posez, à savoir ma lecture du bilan sécuritaire qu'on vient de dresser tout à l'heure. D'abord, moi, je voudrais rectifier dans le même sens que M. Dembélé. Quand on parle de terrorisme, je prends le mot terrorisme. Dans le mot terrorisme, il y a le mot terreur. Donc, évidemment, si on prend le terrorisme au sens où il y a des actes qui sont posés et qui sèment la terreur dans un certain nombre de localités de notre pays, je l'admets. Mais si on l'utilise dans le sens où ce sont des religieux qui s'organisent par eux-mêmes et avec tous les moyens qu'ils ont, à savoir les ressources humaines qu'ils disposent, les armes qu'ils disposent, les moyens de renseignement qu'ils ont, parce que vous posiez tout à l'heure la question de savoir quelle est la preuve de l'accusation qui consiste à dire que ce tourisme est sponsorisé. Donc moi, je dis que au fait, c'est pas du tourisme comme on... Parce que, vous savez, les gens sont habitués à reproduire les mêmes mots que surtout dans le domaine du journalisme. Les journalistes répètent chaque fois ce que les hommes politiques disent. Je vous en veux pas du tout. Mais nous, qui sommes des intellectuels, donc nous sommes obligés de rectifier les choses. Au fait, ce qui se passe dans nos pays, de façon générale, et en particulier en ce qui concerne le Mali, c'est que nous sommes dans un projet de recolonisation du Sahel par un certain nombre de puissances étrangères, dont à la tête la France. Et ce projet-là a été savamment préparé. Moi, j'étais en France dans les années 2007 jusqu'à 2012. Je regardais les documentaires et je suis tombé un jour sur un documentaire où on disait qu'il faut que l'Europe retourne en Afrique. Et que la dernière fois et la première fois l'Europe est venue, c'était une colonisation, c'est pas administrative et autre, mais il faut que l'Europe retourne savamment monté là aussi pour dire que on a laissé les Africains dans la pauvreté. Donc il faut qu'on y retourne pour faire en sorte qu'ils puissent se développer. Comme si nous sommes des êtres incapables nous-mêmes de se développer. Comme si à chaque fois nous sommes vraiment des petits enfants qui ont besoin de l'entretien, du soutien, de l'accompagnement du grand papa ou de la mère patrie, à savoir donc la France. Donc au fait, en réalité, c'est des jeux de mots. Le discours est toujours le même, même si la forme change, mais le fond reste toujours le même. C'est que si nous voulons se battre, il faut qu'on se batte. Si on ne veut pas se battre, eh bien, ils vont continuer toujours à nous exploiter comme ils l'ont toujours fait il y a plus de centaines d'années. Donc, pour revenir à la question, le bilan sécuritaire.
Donc, bon, c'est ce retour de l'Europe que vous dites qu'il faut une rectification?
Oui,
c'est
mais
de ça il s'agit.
Oui, mais là,
ce n'est plus le terrorisme, mais c'est le retour.
C'est le terrorisme, c'est un paravent. Le terrorisme, c'est-à-dire que ça relève ce que Marx appelle l'idéologie. Donc, on invente des concepts, on invente des mots pour noyer les gens dans ces mots, dans ces concepts-là. Et donc, derrière ces concepts-là, il y a autre réalité qui est là. Et ce qui est là, c'est ce que j'appelle la lutte des grandes puissances pour les ressources, en fait, de l'Afrique. Et là, vous avez très bien vu, lorsque la Russie a rapproché un certain nombre de pays africains, là, on comprend très bien que c'est un autre jeu qui est là. La France est devenue tellement jalouse, et pas seulement la France, c'est l'Europe, toute l'Europe, je dirais tout l'Occident, qui est devenue assez furieuse contre le fait qu'un autre est venu, parce qu'ils considèrent nos pays comme l'air précaré, comme en tout cas des parties du monde qui leur appartiennent depuis un certain temps. Et donc, pour eux, c'est inconcevable de partager ces territoires-là avec d'autres puissances.
D'accord. Et revenons à la question posée. Quelle lecture faites-vous de cette situation sécuritaire des villages qui sont obligés de quitter?
Oui, c'est toujours regrettable de voir que des frères, des sœurs, des parents, parce que nous sommes tous maliens. Quand tu tues un malien, c'est toujours tu tues un malien. Donc, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit du centre, qu'il soit de n'importe quelle partie. Donc, c'est vraiment regrettable de voir chaque fois qu'on enregistre encore des morts sur notre territoire. Mais si vraiment on veut mettre fin à cette insécurité, et là, j'ajouterai avant de terminer le fait que quand les gens disent que l'armée monte en puissance, il y a des gens qui se moquent pour dire que pourtant on continue à tuer. Mais la France n'achète pas de radars, la France n'achète pas de SAR, elle a les moyens d'en fabriquer. La France a donc des moyens pour acquérir elle-même des moyens militaires. Le budget militaire français vaut 100 fois, 1000 fois que le budget militaire malien. Et pourtant, la France n'a pas été épargnée par les attaques terroristes, y compris dans la capitale. Et je veux vous rappeler Bataclan, je veux vous rappeler Charlie Hebdo, je veux vous rappeler. Donc, vraiment, il y a aussi le cas des États-Unis en 2001, le 11 septembre. Est-ce que nous avons besoin encore de revenir sur ça pour rappeler aux gens qu'il s'agit le fait de dire que l'armée monte en puissance? L'armée monte en puissance quand il s'agit de la guerre traditionnelle. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique. Et donc, face à cette guerre asymétrique, quelle que soit la puissance de l'armée, donc il est clair que, comme il l'a dit, c'est tellement imbriqué et que parfois, c'est même des locaux qui sont dans cette situation. Bon, il faut aussi faire la différence entre ces gens également. Je terminerai là. Il y a des gens qui sont embrigadés dans cette affaire sans se rendre compte. C'est-à-dire que c'est des innocents, malheureusement par méconnaissance, par ignorance, donc ils se sont retrouvés enveloppés, enroulés dans cette affaire-là. D'accord. Mais il y a des gens qui tirent profit de ça. Depuis l'avènement de 2012, il y en a qui se sont fait des millions, pour ne pas dire des milliards. Donc, ces sens-là continuent.
On y arrive. La situation, Paul Oula, vous êtes analyste sécuritaire. La situation sécuritaire devient de plus en plus complexe en ce moment. Quelle explication faites-vous de cela?
Ok, merci, M. Maïga. Bonsoir à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à mes co-débatteurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ces d'attaques terroristes. De prime abord, il est impérieux de comprendre que quels sont les types d'attaques auxquelles notre armée fait face depuis 2012 jusqu'à maintenant. Pour le comprendre, moi je vais sur la base d'une analyse stratégico-politique pour faire ensuite et par la suite une déduction. D'abord, nous avons deux grands groupes terroristes qui opèrent au Mali ici. Le premier groupe armé terroriste est ce qu'on appelle l'IGS, c'est-à-dire l'État islamique dans le Grand Sahara, qui est ce qu'on appelle une organisation militaire et terroriste d'idéologie salafiste et djihadiste. Ce groupe est rattaché naturellement à ce qu'on appelle à l'État islamique appelé aussi Daesh. Ce groupe est considéré aujourd'hui comme un groupe de réseau terroriste qui opère de manière transversale, partant de la Syrie jusqu'en Irak. Et l'IGF qui est au Mali est, comment dirais-je, un démembrement de ce réseau international qui a pour objectif de créer ce qu'on appelle un État islamique dans le Grand Sahara. Donc ce groupe opère dans les zones des trois frontières au Mali ici, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina. Donc partant de ce constat, on peut comprendre, c'est-à-dire de manière pratique, c'est-à-dire de manière stratégique, là où ces groupes terroristes opèrent. Nous avons la zone de Menaka, Tidermen, Andraboukan, en descendant jusque vers Gao, en Songo, Boura et Tessit, Ouattakouna, jusqu'à Labizana. Ensuite, nous avons un second groupe qu'on appelle le Jinim, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est aussi un groupe terroriste, mais cette fois-ci, qui opère au centre du Mali. Ce groupe a été formé depuis mars 2017-2018, à la suite d'une fusion entre Ansardine et puis voilà, Akumi et Al-Mouhabitine. Donc ce groupe opère, c'est-à-dire dans les zones comme Banka, Sporo, Douanza, Gwaru, Semenkou, ainsi de suite. Alors, maintenant, la différence qui se trouve entre ces deux est très minime, puisque leurs modus operandi sont pratiquement les mêmes. S'il y a une différence, ce serait au niveau dialectique. Par exemple, quand le Jinim attaque, vous verrez tout le temps qu'il parle du Peul, c'est-à-dire la langue Peul, après les attaques ou pendant les attaques. Quand vous visionnez leur vidéo, vous allez voir qu'ils parlent Peul.
D'accord. L'armée est-elle en mesure de contrer ces attaques ciblant de plus en plus des civils?
Ok, maintenant, moi, je pense que les raisons qui expliquent fondamentalement la récurrence de ces attaques dans ces deux jours-là trouvent sa source dans ce qu'on appelle la montée en puissance clamée haut et fort par les Maliens. Donc, nous êtes sans savoir que l'armée aujourd'hui a été, a reçu ce qu'on appelle beaucoup de matériel de guerre, que ce soit dans le domaine, c'est-à-dire que ce soit sur le plan du renseignement, l'acquisition des radars, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le constat est sans embâche que l'armée n'est plus sur la défensive, elle est sur la position offensive. Donc, les groupes armés sont en train de perpétrer ces attaques pour montrer à l'opinion nationale et internationale que l'armée qu'on est en train de dire qu'elle est en train de monter en puissance relève du fantasme. Voilà une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les groupes armés sont en train d'attaquer les villages.
D'accord, on va revenir vers vous et rester en ligne avec nous. Vous venez d'écouter Paul Oula qui disait tout à l'heure que les attaques de ces dernières semaines trouvent sa source dans, dans la montée en puissance de l'armée. On annonce également l'acquisition des moyens aériens de l'armée et des matériels. Quel impact cela a eu sur la situation sécuritaire?
Bon, encore une fois, merci au studio Tamani. C'est vrai, c'est vraiment un plaisir pour moi de répondre à de telles questions. Et je le dis, je le répète haut et fort, la montée en puissance de l'armée malienne n'est même pas à discuter. Ça ne peut pas être également un objet de discussion, sinon d'échange par rapport à cela.
Mais est-ce que vous confirmez, c'est vrai, déjà, attaques, est-ce que vous confirmez déjà que ces attaques retrouvent leur source
dans la montée en puissance de l'armée? Je ne confirme pas cette thèse, parce que jusqu'à preuve du contraire, les attaques auxquelles nous assistons ne visent pour le moment que les villages, et pratiquement pour des populations également qui n'ont même pas d'armes. Donc c'est des populations civiles, innocentes, souvent qui n'ont même pas un poste de police, à peu près un poste de gendarmerie, qui sont les victimes.
Mais qu'est-ce que
maintenant, qu'est-ce qui peut justifier cela?
L'acquisition a changé de cela.
Mais non, quand même, Monsieur Maiga, vous n'allez pas me faire croire que quand même de 2012 à aujourd'hui, ce sont les mêmes attaques, ce sont les mêmes cibles. Non, on ne peut pas comprendre cela. Il n'y a même pas de comparaison à ce niveau-là.
C'est les montées en puissance
de l'armée malienne. Non, mais les civils, combien de civils chaque fois? Sinon, dans les temps, c'était des casernes qui étaient brûlées. Vous n'êtes pas sans savoir également que pendant tout ce temps, il y a eu on a eu combien de militaires qui ont perdu la vie pendant ces attaques-là, des casernes. Mais maintenant, ce ne sont plus des casernes. Vous voyez, même quand vous prenez le cas de Kadi Bonzon, c'est les jeunes footballeurs qui étaient pratiquement...
Est-ce que cela n'est pas...
Qui étaient munis de rien.
Est-ce que cela n'est pas lié à un changement de stratégie? Auparavant, c'était plus des casernes que des civils, mais aujourd'hui, c'est plus des civils que des casernes.
Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, j'insiste là-dessus, il faut une collaboration, une franche collaboration entre la population et les femmes. La montée en puissance n'est pas synonyme d'insécurité zéro. Ça, il faut le dire. Le professeur l'a si bien dit tout de suite. Jusqu'à preuve du contraire, il faut mettre ça en ligne de miel. C'est quoi? La collaboration, la franche collaboration entre la population et l'armée malienne. Maintenant, c'est vrai, il y a des postes qui sont attaqués, ce ne sont même pas des postes, c'est des villages qui sont attaqués. Pour la plupart des cas, je viens de prendre l'exemple de Kani Bonzon, où c'est des jeunes footballeurs qui étaient pratiquement au football, au terrain, qui n'étaient munis d'aucun, absolument rien, ils n'ont même pas de bâtons, on a tiré sur eux. Donc ça, je n'appelle pas ça le terrorisme. J'appelle ça seulement juste, peut-être des règlements de compte ou encore des barreaux d'honneur, parce qu'en réalité, ils sont dépossédés de tout ce qu'ils ont comme arsenal dans le temps où ils pouvaient prendre des camps, tout ça. Là. Maintenant, ils sont pratiquement déshabillés, ils sont nus maintenant en termes d'armement. Donc, c'est pourquoi moi, je pense que jusqu'à plus au contraire, c'est des attaques, on ne peut pas les minimiser parce que c'est des vies humaines comme qui sont perdues. Mais il faut reconnaître que seulement, ce n'est pas l'armée. L'armée ne peut pas faire tout cela à la fois.
Récemment, les autorités se sont félicitées de l'acquisition des drones capables d'identifier les ennemis. Est-ce que ces drones-là fonctionnent aujourd'hui?
mais ça, c'est vraiment une question. D'accord. En tout cas, ces drones fonctionnent très bien d'ailleurs. Très bien d'ailleurs. Mais seulement, il faut juste dire que peut-être... On ne peut pas contrôler même les hameaux, parce que pratiquement, les exemples que vous êtes en train de prendre ici, c'est pratiquement des hameaux, des villages, qui sont très, très éloignés souvent même des centres où opèrent les femmes. Donc en ce moment, qu'est-ce qui peut nous aider en ce moment? C'est la collaboration, la franche collaboration entre la population concernée et les civils. Mais le problème, c'est quoi? C'est pas bon de le dire, hein, mais moi, je vais le dire ici. Parmi ces terroristes, entre guillemets, parmi ces djihadistes, entre guillemets, il y a des jeunes locaux. Moi, je pense qu'il faut les dénoncer pour mettre fin à tout ça. Sinon, c'est pas... C'est vrai, le professeur Paul a fait une analyse très succincte par rapport à ces différents mouvements qui opèrent actuellement dans le centre et même au nord. Mais en réalité, il faut reconnaître que parmi ces gens-là, nous avons aujourd'hui une pépinière locale qui est en train d'être entretenue, je ne sais pas par qui, mais qu'il faut démasquer. Ça, c'est pour vraiment sauver même les vies civiles des populations innocentes qui n'ont rien demandé que boire, manger, et puis c'est tout, l'école, la santé.
Vous avez insisté sur la collaboration avec civilo-militaire. Oui. Est-ce l'armée est en manque de collaboration aujourd'hui avec les populations?
Mais si vous avez, par exemple, un terroriste, entre guillemets, dans votre famille, c'est à vous de le dénoncer? Parce que ce n'est pas écrit. C'est les gens qui se promènent comme, comme moi, comme vous, en longueur de journée. Et puis, pratiquement, ils ne portent même pas de tenue, ils n'ont même pas d'uniforme. Donc, c'est à vous, en tant que membre de votre famille, de démasquer, de lui dire que bon, bon, vraiment, celui-là, il est dans le mouvement. Et puis, moi, je pense qu'il faut le mettre hors d'état de nuire. Parce que ça, en se le faisant également, non seulement vous vous sauvez, mais vous sauvez également d'autres civils. D'accord. Voilà. Moi, je pense que je mets l'accent sur cela. C'est pourquoi je parle de la collaboration civilo-militaire. Dans vos familles, vous avez des gens qui sont avec cette chance-là, ces malfaiteurs-là, ces narcotrafiquants, ces djihadistes, ces terroristes, mais c'est à vous de les dénoncer. Maintenant, si, par exemple, l'armée se mettait, comment dirais-je, en branle pour aller récupérer ces gens-là, vous allez entendre d'autres communiqués, peut-être même le studio Tamani va même faire un communiqué encore parler d'un autre rapport, comme quoi il y a des pays ou encore il y a une ethnie qui a été exécutée par-ci, par-là. Donc, pour éviter tout ça, c'est ce qu'on appelle l'amalgame, pour éviter l'amalgame, en ce moment, moi, je pense que c'est à vous, en tant qu'acteur, principaux d'ailleurs, de donner cette information-là à nos femmes afin que on puisse dégager carrément ce qui peuvent être des obstacles à la paix.
D'accord. Pour passer la parole à Bakabini Keïta, je reviens un peu vers vous. Mm-hmm. Quelle a été la place de ce drone-là concrètement dans le renseignement de l'armée?
Bon, nous n'allons pas rentrer dans certains détails. Nous n'allons pas rentrer dans certains détails. C'est vrai, c'est le CDM.
Est-ce que cela a servi quelque chose?
Non, j'arrive. Qui parle du CDM parle des FAMA et qui parle des FAMA parle de la grande miette. On ne va pas rentrer dans certains détails. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que ces acquisitions ne vont pas rester dans les tiroirs comme dans les temps, ou encore ne seront pas des acquisitions en carton ou encore en papier. Et bon usage sera y fait, et pour l'honneur et la souveraineté du Mali, dans son entièreté. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans certains détails par rapport à cela, mais les retombées sont là déjà.
Est-ce qu'on peut parler d'impact de ces drones sur la situation sécuritaire dans les pays qui sont capables, selon les autorités, d'identifier l'ennemi où qu'il se trouve?
Excusez-moi, Maïga, de répondre à ta question par une question. Moi, je voudrais te poser la question. C'est inhabituel chez moi de répondre à la question d'un journaliste par une autre question. Moi, je voudrais aussi poser la question à toi et puis à tous ceux qui pensent de la sorte. Mais quand les États-Unis étaient attaqués par les terroristes le 11 septembre 2001, n'y avait-il pas de drones aux États-Unis? N'y avait-il pas de radars?
Non, on ne répond pas à la question.
C'est important de poser la question. Non. Bon, en fait, ce n'est pas je pose la question. Je me pose moi-même la question.
Allez-y.
Donc, je me pose la question, est-ce que les États-Unis n'avaient pas de radar quand on les attaquait, le 11 septembre 2001? Quand on attaquait les deux tours jumelles et qui a fait environ 5000 morts, il n'y avait pas de radar? Et d'ailleurs, ils fabriquent même pas, ils n'achètent même pas les radars. Ils en fabriquent. La France, tout récemment, quand il y a eu Charlie Hebdo, où étaient les radars français? Charlie Hebdo, c'est où? C'est dans la capitale. C'est à Paris. Donc, vous ne pouvez pas remettre en cause les efforts qui ont été faits sur le plan de l'équipement militaire. Et donc, d'Assa...
On ne met pas en cause, on demande juste...
Oui, non, c'est une manière intelligente de remettre en cause. Bah, derrière chaque question, il y a tout un...
C'est juste pour la compréhension
oui,
des uns.
Oui, justement, mais c'est pour la compréhension, évidemment. Ma réponse, effectivement, se situe effectivement à compléter la compréhension que vous avez du sujet, même si peut-être nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas question de moyens. S'il s'agit des moyens, le Mali a, malgré tout ce que nous avons acquis, le Mali a 1000 fois moins de moyens que les États-Unis, que la France, que toutes ces puissances-là. Mais même l'Angleterre a été attaquée à plusieurs reprises par les terroristes jusque dans la capitale. Moi, je ne vois pas de puissance qui n'a pas été attaquée par les terroristes. Pourtant, on ne peut pas reprocher la performance de leur armée. On ne peut pas reprocher la puissance de leur armée.
D'accord. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a une idée du nombre de terroristes présents sur son territoire?
Bon, ça, je ne suis pas responsable militaire. Donc, pour savoir le nombre de terroristes présents, il était en train de vous expliquer que la question du terrorisme est assez complexe parce qu'il y a des étrangers qui sont venus un peu de partout, de l'Irak, de la Syrie, de la Libye. Et il y a aussi des locaux qui sont embrigués dans cette affaire. Et quand on parle de terrorisme, il faut même aussi étendre tout l'affaire du terrorisme, la question du terrorisme. Parce que c'est, le terrorisme aussi opère avec des commerçants. Comment se ravitailler en carburant? Comment avoir les armes? Ils achètent les armes. Avec qui ils achètent les armes? Maintenant, l'argent qui leur permet d'acheter ces armes-là, où est-ce qu'ils tirent cet argent-là? Ils se nourrissent. Comment ils arrivent à se nourrir? Les motos qu'ils ont là, ils mettent du carburant dans ça. D'où viennent ces carburants? Donc il faut se poser des questions. Donc forcément, il y a des locaux qui sont impliqués. Impliqués par cupidité. Impliqués par ignorance. Mais dans la plupart des cas, par cupidité. Djenikanimi, Miseka Moussorala. Et donc, mais il y a d'autres aussi qui sont dedans par nécessité. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Et parce qu'ils n'ont rien, même s'il s'agit d'aller mourir pour 25 000 francs, je suis prêt à aller mourir pour ça. Donc, je pense que l'État doit aussi faire un appel.
D'accord.
À ces gens, évidemment, qui sont dans cette affaire par ignorance, dans cette affaire par nécessité, donc de sortir et de mettre en place des dispositifs pour faire en sorte que ces gens ne retournent plus.
D'accord. Paul Oula, Dembélé a annoncé tout à l'heure qu'il y a une évolution de la situation sécuritaire. Les camps ne sont plus attaqués. Aujourd'hui, est-ce que faut-il craindre avec l'évolution, malgré ces résultats annoncés, il y a une évolution sur le terrain. Que faut-il craindre avec l'évolution d'aujourd'hui?
Ok, pour répondre à cette question, je voudrais juste vous rassurer concernant les opérations qui ont été effectuées par les drones là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez posé une question par rapport à ça.
Effectivement.
Voilà, donc vous pouvez juste lire ce qu'on appelle le dernier communiqué ou l'avant-dernier communiqué de la BIRPA, pardon. Voilà, sur le bilan des opérations au centre et au nord. Ça fait mention des travaux effectués par les drones, notamment en matière de renseignement et de frappe effective. Les deux communiqués font beaucoup allusion à ça. Ce qui veut dire que voilà, les drones là sont en train de travailler.
Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les solutions proposées ont-elles été confrontées à des défis de mise en œuvre?
Effectivement. Aujourd'hui, les défis sont énormes. Et regardez, nous avons un problème ici qui ne tape pas forcément à l'œil, mais qui peut être considéré voilà, comme un obstacle. Regardez, tout récemment, il y a eu ce qu'on appelle un réaménagement, un changement récent à la tête du commandement militaire. Vous savez que certains responsables militaires des grandes opérations qui étaient ce qu'on appelle opération Malico, opération politique, ont été remplacés, qui viennent d'occuper juste ce qu'on appelle au niveau de, qui ont occupé des postes à l'état-major, à la gendarmerie, ainsi de suite. C'est vrai que l'opération a continué, mais est-ce que sur le plan stratégique, ça ne va pas créer un petit dysfonctionnement permettant de créer des failles jusqu'à ce que l'ennemi puisse atteindre ses objectifs? Je pense que ça peut aussi soulever des questions ou des inquiétudes. Autre élément, nous sommes aussi entourés par des pays qui ne jouent pas franc jeu avec nous. Regardez tout récemment la position de l'Algérie par rapport à la crise du Mali. Regardez tout récemment le fait qu'il y a eu ce qu'on appelle des insuffisances sur le plan stratégique, sur le plan de coopération stratégique entre le Mali et le Niger. Ce n'est pas pour zéro que l'IGF est en train d'opérer sur la bande, sur la ligne frontalière qui existe entre le Mali et le Niger. Ce n'est pas pour zéro.
Alors, est-ce
au Niger.
Alors, est-ce à dire que la réponse militaire en elle seule a montré ses limites?
Bon, vous savez, la lutte contre le terrorisme rythme avec aussi ce qu'on appelle des approches sociopolitiques aussi. D'une part, il faudra lutter sur le plan militaire, et d'autre part, je pense qu'il faut aussi négocier avec ceux qui sont éligibles à la négociation. Parce que vous savez que Les terroristes, en quelque sorte, sont animés aussi par une doctrine religieuse. Nous avons aujourd'hui des dirigeants ou des responsables religieux qui peuvent prendre langue avec les terroristes. Ils sont connus, ils savent Mabouzi. Ils peuvent ouvrir des canaux de discussion avec les responsables terroristes pour essayer de voir dans la mesure du possible ce qu'on peut laisser et ce qu'on ne peut pas appliquer. Donc ça, c'est une autre posture. La seconde posture, c'est quoi? C'est que il faut partir sur la base, c'est-à-dire d'un système de développement de manière homogène. Un, il faut rapprocher ce qu'on appelle l'administration des administrés. Le nouveau découpage administratif fait beaucoup attention à ce truc-là. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Le dernier citoyen qui se trouve, par exemple, à Incaline, qui n'est pas en rapport avec les structures ou les services sociaux de base, devient de facto un poids facile au groupe djihadiste.
D'accord.
Ce jeune qui est désœuvré, qui ne parvient plus à faire ses commerces au niveau des frontières, qui partait se ravitailler, par exemple, au niveau du Niger ou au niveau de l'Algérie pour venir les revendre au niveau de Tizawatène, ce dernier peut être facilement enrôlé par le groupe djihadiste.
D'accord.
Juste pour avoir 500 000 francs par mois.
D'accord.
Donc, il faut que l'État soit présent, c'est-à-dire pas seulement que sur le plan militaire, mais sur le plan social, que l'État soit proche des populations.
D'accord. Vous aurez la parole sous peu. Parmi les solutions proposées et qui avaient été d'ailleurs mises en œuvre figure le déplacement des militaires en moto comme les groupes terroristes. Est-ce que cette pratique a eu des effets escomptés?
Bon, avant de répondre à votre question, moi je voudrais juste éclaircir certaines choses.
Allez-y.
Vous savez que dans tous les cas, cette insécurité-là est devenue pratiquement une activité lucrative pour beaucoup. L'insécurité aujourd'hui nourrit plus que les terroristes.
Donc vous rejoignez Bakabini Keïta.
C'est un fonds de commerce, c'est devenu un fonds de commerce. Il y a certains aujourd'hui, même si vous les mettez dans les meilleures conditions qu'ils doivent, ils ne vont pas mettre fin à cette insécurité-là. Ça, ils vont tout faire pour l'entretenir. Le professeur a parlé de toute la filiale, parce que c'est devenu pratiquement une filiale maintenant. Il y a les commerçants, même les motos sur lesquelles ils circulent, comment est-ce qu'ils les acquièrent? Donc, c'est pratiquement un fonds de commerce qui est devenu, qui s'est installé au Mali. Donc la première des choses d'abord, en termes de motivation, pour mettre vraiment la balle à terre par rapport à cette question d'insécurité sous forme de terrorisme ou djihadisme, que la restauration de l'autorité de l'État, ça c'est très important, la restauration de l'autorité de l'État. Je le disais tout à l'heure, il y a, dans certaines familles, vous allez trouver des gens qui sont là. Pratiquement tous les villages, c'est qu'ils sont là-dedans, mais ils ne sont pas dénoncés. Et quand on va les cueillir comme des fruits, on va dire que bon, le lendemain, il y aura des rapports. La MDH, ceci, là, ils ont écrit. Parce qu'il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu ceci, il y a eu cela. Moi, je pense encore une fois qu'aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, parmi les terroristes aujourd'hui, il y a moins d'étrangers. Ça, je peux vous garantir, il y a moins d'étrangers.
D'accord.
Les 80 à 90% sont des nationaux.
D'accord. Et revenons à la question posée.
Maintenant, les opérations, vous savez, je le dis, je le répète, il y a de ces opérations, nous, on ne veut pas trop les dévoiler. En termes de, même si c'est un débat, moi je ne voudrais vraiment pas.
Oui, on demande juste s'il y a, est-ce qu'il y a eu des effets escomptés.
Il y a des effets escomptés. Pendant combien de temps vous n'avez pas entendu parler d'attaques par-ci, par-là? Sauf que c'est cas isolés, ça c'est des cas isolés qui peuvent exister partout. Et donc, nous, jusqu'à preuve contraire, que ce soit pour les drones, que ce soit pour les motos, tout ce qu'il y a eu comme acquisition dans ces derniers temps, d'une façon ou d'une autre, ont apporté leur contribution à l'édification, sinon à la consolidation de la paix. Mais seulement, comme je le dis, il faudrait que ça soit accompagné par une volonté manifeste des populations locales à participer au renseignement. Ça, c'est très important.
C'est l'unique solution?
Bon, Non, Linux, c'est pas l'unique solution, mais l'État est une, c'est vraiment un éventail de solutions qui est là. Donc, c'est pourquoi je rejoins également le professeur quand il a demandé, il a dit de lancer un appel pour tous ceux qui sont pour la paix, de rejoindre la République. Parce que jusqu'à preuve contraire, dans tous les cas, cette insécurité ne va pas continuer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a, il y a des acquisitions, les ambitions sont là. Paul également a parlé tout de suite des réagissements qui sont intervenus au niveau des autorités, comment dirais-je, des responsables de l'armée. Donc moi, je pense que jusqu'à preuve contraire, tout cela montre qu'en réalité, il y a une volonté manifeste d'aller vers d'autres opérations. Et maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, c'est pourquoi nous, chaque fois que nous sommes sur des plateaux, nous demandons à tous ceux qui veulent être dans la République, de rejoindre la République, avant qu'il ne soit trop tard.
Donc cette guerre sera gagnée ?
Non, mais ça, ce n'est même pas à discuter. Nous, ce n'est même pas dans notre... On ne pense même pas à cela, à une défaite par rapport à cette guerre-là.
D'accord. Voilà. Quelles sont les nouvelles solutions à prendre en compte par rapport à cette situation d'insécurité ?
Bon, avant de parler des nouvelles solutions, je voudrais également proposer une réflexion par rapport à ces attaques-là qui sont en cours, qui se sont perpétrées en tout cas dans certaines localités. Je me dis, est-ce que ces attaques ne se situent pas dans ce que j'appelle la promotion de la peur ? C'est-à-dire qu'on fait ces attaques et on fait peur aux gens. Donc on les amène à fuir leur territoire, donc discréditer l'État, etc., etc. Alors, à quelle fin ? Premièrement, nous sommes, je crois, le président de la République a reçu le lundi passé, je crois, le projet de constitution finalisé par la Commission. Et donc, ça veut dire que bientôt, on va vers le référendum. Et donc vers une nouvelle constitution. Alors, ceux qui n'ont pas intérêt à aller vers cette nouvelle constitution, est-ce que ces gens-là ne sont pas aussi derrière ces attaques ? Donc ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Moi, je n'ai pas la réponse. Donc d'accord. Je voudrais que...
On n'a pas assez de temps. Il nous reste 5 petites oui. minutes maintenant, à partager ensemble. Maintenant, les nouvelles solutions à proposer qui doivent être prises en compte.
Oui, et de manière générale, il faut mettre ces attaques en rapport avec le chronogramme que le Mali s'est fixé. Donc il faut rendre la tâche difficile. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sorte de cette situation. Et donc, il faut empêcher le gouvernement de réussir ce chronogramme-là. Donc, y compris les élections, les réformes politiques, etc., etc. Donc, il y a tout ça là qu'il faut voir. Maintenant, les nouvelles solutions. Bon, vous avez parlé de faire comme les djihadistes le font. Mais moi, je vais plus loin. Peut-être que c'est des choses qui ne sont pas bonnes à dire sur un plateau. Mais peut-être, puisque vous me le demandez de proposer une solution, une nouvelle solution, si ce n'est pas déjà pratiqué par l'armée, parce que l'armée, c'est la grande maître, elle fait beaucoup de choses dont nous autres ne sommes pas au courant. Mais néanmoins, je dirais qu'il faut infiltrer les terroristes. Les infiltrer. Donc parler la langue dont ils parlent. S'ils parlent peul, donc il faut apprendre que nos militaires apprennent à parler peul. S'ils parlent sorai, qu'ils apprennent à parler sorai. S'ils parlent tamashek, qu'ils apprennent à parler tamashek, à écrire, etc. S'il le faut. Et donc même les accoutrements et autres là, donc il faut les infiltrer. D'accord. Donc l'effet recherché c'est quoi ? C'est que c'est deux choses. Donc ça va semer la peur au niveau donc du camp terroriste, du camp des terroristes. Et finalement, donc, ça va brouiller, c'est-à-dire que ça va les rendre, ça va les mettre dans ce qu'on appelle une situation de paranoïa.
D'accord.
Donc, autrement dit, ils auront même peur d'eux-mêmes.
D'accord. On va donner 30 secondes.
Forcément, ça va mettre les groupes terroristes les uns contre les autres. Ah, et donc, je crois que c'est aussi une solution peut-être qu'il faut envisager, si ce n'est pas déjà en cours.
Paul Oula, quelle est l'urgence aujourd'hui à mettre en œuvre au regard de l'évolution de la situation sécuritaire ?
Ok, l'urgence, en 30 secondes. Il faut que l'État s'attaque aux causes, c'est-à-dire aux causes sous-jacentes, aux causes sous-jacentes du terrorisme. C'est la seule voie par laquelle le temps pourra s'améliorer.
D'accord. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Le technicien me fait signe que le temps est parti. Et déjà, voilà. En tout cas, merci en tout cas à nos invités. Nous réfléchissons sur la menace djihadiste qui continue d'affecter les civils. Quelle solution ? Et nous étions avec Mahmad Oumar Dambélé, membre de la cellule de communication du collectif pour la défense des militaires CDM, Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société civile, et Paul Oula, analyste sécuritaire, qui était au téléphone. Je suis Mirana Kilo Maïga à la présentation. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.